Donc, on va vous présenter à deux voix deux aspects de ces questions qui sont relatées dans le titre. Comment on assure le suivi de ces oiseaux, qu'on vous décrira un petit peu plus après, qu'on appelle les galliformes de montagne dans les Pyrénées, au moyen d'un observatoire qui a un sigle un peu calamiteux, OGM, enfin, ça ne veut pas dire organisme génétiquement modifié. Et puis, un exemple de dynamique des populations avec une espèce phare, le lagopède alpin. Alors, un galliforme de montagne, c'est quoi? C'est des gros oiseaux. Galliforme, ça veut dire de la forme d'une poule, hein, quelque part. Donc, c'est tous des oiseaux qui sont des oiseaux anciens dans l'évolution, des oiseaux terrestres, herbivores et plutôt de grande taille. Ça regroupe des oiseaux que vous connaissez très bien, les poules, les poulets, les dindons, les pintades. Mais pour des oiseaux sauvages, les perdrix, les faisans, les cailles, colins, les francolins, selon les continents. Donc, c'est des oiseaux qui, en France, sont représentés par 8 espèces qui utilisent en montagne tous les étages de végétation. Donc un qui s'appelle la gélignote des bois, qui est un oiseau de taille moyenne, 400 grammes, qui vit dans l'est de la France, des Ardennes aux Alpes du Sud, et qui a disparu des Pyrénées, mais il existe un projet de réintroduction dans le Val d'Aran espagnol. Le grand tétras, qu'on ne présente plus ici, hein, tout le monde en a entendu parler s'il n'en a pas vu, donc c'est une espèce qui est présente pas seulement dans les Pyrénées, mais aussi dans les Vosges, le Jura, qui a été réintroduit dans les Cévennes, mais qui a disparu des Alpes françaises, non pas pour des raisons actuelles, mais pour des raisons, un peu comme on a vu ce matin, d'erreurs en fait, de gestion passée des forêts, notamment à l'époque où les ducs de Sardaigne administraient les Alpes de l'Ouest. Et c'est eux qui ont, par la déforestation, fait disparaître l'espèce qui s'est maintenue tant bien que mal jusqu'au XXe siècle et qui a fini par disparaître. Le tétralyre, qui lui occupe toutes les Alpes et donc toutes les Alpes françaises, mais qui a disparu aussi des hautes fagnes, des fagnes d'Ardennes. La perdrix grise de montagne, qui ne vit que dans les Pyrénées. Il y avait des populations de perdrix grise en montagne dans les Alpes et dans le Massif central juste dans les années 50. Elles ont disparu, mais on ne sait pas du tout si elles se rattachent génétiquement, puisqu'il ne reste aucune pièce dans les muséums, si elles se rattachent génétiquement aux perdrix des Pyrénées, qui sont vraiment très différenciées des perdrix que vous avez dans le bassin parisien et jusqu'en Europe centrale. Donc on ne sait pas, on ne sait pas du tout. La perdrix Bartavelle, qui est au moins connue par un roman de Marcel Pagnol, qui vit dans toutes les Alpes, qui est ici dans les Alpes françaises, en limite nord de son aire de répartition, qui est plutôt une espèce d'affinité de milieu de montagnes chaudes, hein, les reliefs chauds, puisqu'elle va de la Sicile, les Apennins, la Grèce. Et puis le lagopède alpin, qui vit dans les Alpes et les Pyrénées. Et bien, vous voyez que toutes ces espèces, pourquoi on s'y intéresse un peu particulièrement? Vous voyez que pour plusieurs, on signale des disparitions de populations, enfin, il y a eu des problèmes, des choses comme ça. Donc c'est des espèces qui font l'objet de textes internationaux pour que les États membres de l'Union européenne en particulier fassent attention à la conservation de leurs habitats. Et c'est pourquoi elles sont peut-être un peu plus étudiées que d'autres, comme le sont aussi les rapaces, par exemple, qui sont également dans des listes et qui aussi ont un côté charismatique indéniable. Alors, d'un point de vue, disons, de la zoologie, il y en a quatre qui sont des tétras, de la famille des tétras, c'est ces quatre-là, et il y en a deux qui sont du groupe des phasianidés, en fait, plus apparentés aux faisans, mais enfin qui sont très voisins quand même dans la systématique. Alors c'est des espèces qui ont une importance par rapport à l'homme assez importante. Hein, l'oiseau qui s'appelle le monal, c'est l'emblème du Népal. C'est l'oiseau officiellement emblématique du Népal, le lophophore en français. En Europe, on ne compte pas les pistes de ski, les restaurants et les boîtes de nuit qui s'appellent le tétralyre ou le grand tétras. C'est aussi des oiseaux sacrés dans pas mal de régions du monde, notamment en Asie, comme ce Crossoptilon, une espèce de gros faisan himalayen. Que vénèrent ces religieux. Et puis, c'est l'objet de conflits sociétaux et socio-économiques très forts. Ici, vous avez les grandes plaines de l'Ouest américain où on extrait actuellement le gaz de schiste. Et en gros, c'est en balance le gaz de schiste ou ce fameux tétra qui est en photo là, qui s'appelle le tétra des Armoises. C'est un combat politiquement très fort, au point qu'il y a une récente une de l'Herald Tribune qui avait mis cette photo en une. Et voulez-vous que cet oiseau vous prenne vos terres et votre argent? Donc on voit qu'il y a des conflits assez forts, en général, aussi autour de ces espèces. Alors, je passe la parole à Julie, qui va vous présenter un peu l'observatoire dont elle s'occupe.
Après avoir présenté ces espèces de galliformes, je vais vous présenter l'Observatoire des galliformes de montagne. C'est une association qui regroupe 119 membres sur les deux massifs, donc le massif des Pyrénées et le massif des Alpes, Vosges et Jura. Donc nous sommes en charge de suivre les 6 espèces de galliformes de montagne. Donc vous pouvez revoir les photos ci-dessous. Donc pour suivre ces espèces, nous mettons au point des protocoles de suivi avec l'appui scientifique de l'ONCFS. Et ces protocoles sont mis en place sur le terrain par les membres actifs de l'OGM. Certains membres de l'OGM sont l'Office national des forêts, les parcs, les réserves, les fédérations de chasse, l'ONCFS. Donc pour mieux comprendre le rôle de l'OGM, je vais vous présenter l'exemple du suivi démographique du Grand Tétra. Donc chaque année, au printemps, il y a des places de chant qui sont suivies. Donc comme certains d'entre vous le savent peut-être, le Grand Tétra est un oiseau polygame. Donc les oiseaux vont se regrouper sur des petites zones pour parader, chanter, afin d'attirer les femelles pour la reproduction. Donc c'est lors de ces parades qu'on peut compter les oiseaux. Donc cette année, en 2015, 201 places de chant ont pu être comptées, donc ce qui représente un peu moins d'un tiers des 685 places de chant connues sur l'ensemble des Pyrénées. Donc ces comptages permettent de suivre l'abondance des oiseaux. Et ensuite, on a des comptages qui sont réalisés plutôt en été, donc des comptages aux chiens qui permettent de définir l'indice de reproduction. Donc les oiseaux adultes et les jeunes sont comptés afin d'avoir l'indice de reproduction. Donc l'ensemble de ces comptages sont centralisés par l'OGM, qui sont centralisés sur la chaîne des Pyrénées, qui ensuite peut éditer un bilan démographique. Donc dans ce bilan, nous présentons l'estimation des effectifs. Donc au cours du temps, cela nous permet de pouvoir comparer les effectifs d'une année à l'autre et de pouvoir montrer les variations. Donc à travers des modèles statistiques, nous avons pu déterminer trois scénarios de probabilité. Le premier scénario qui serait une diminution des effectifs, donc sur la barre rouge représentée par 20%, une stabilité des effectifs ou une augmentation des effectifs. Et nous voyons que dans les Pyrénées, le scénario le plus probable à 76% serait une stabilité de ces effectifs. Donc l'OGM a aussi en charge de mettre à jour et de centraliser la cartographie des habitats et des sites vitaux de ces galliformes. Donc là, vous avez un exemple des cartographies disponibles pour le Grand Tétra, sur lesquelles on a les zones de nichée de cet oiseau et les zones d'hivernage. Ce sont des cartographies qui servent aux gestionnaires pour l'amélioration de l'habitat, mais aussi pour toutes les études d'impact. Pour terminer, l'OGM aussi en charge de réaliser des inventaires. Donc nous réalisons deux inventaires, l'inventaire des câbles dangereux, donc les câbles de remontée mécanique, car vous ne le savez peut-être pas, mais dans les stations de ski, on rencontre de nombreux cas de collision avec les câbles. À travers ces inventaires, on a pu recenser des cas de mortalité. Donc pour le Grand Tétra, on a 73 cas de mortalité depuis que l'inventaire a été mis en place. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années. Et ça permet aussi de visualiser des tronçons de câbles qui sont dangereux. Donc vous pouvez voir sur la photo les petits flotteurs rouges qui permettent aux oiseaux de mieux visualiser les câbles et d'éviter de foncer dedans et donc d'avoir des pertes. Et le second inventaire que nous réalisons, c'est l'inventaire des clôtures. Donc les clôtures pastorales ou même forestières sont aussi dangereuses pour les oiseaux. Nous avons recensé sur les Pyrénées 478 km de clôtures dangereuses. Et à ce jour, nous n'avons que 68 km qui sont visualisés. C'est une problématique qui, à ce jour, est en pleine expansion. Donc, nous devons travailler sur ce sujet.
Donc là, je vais rentrer dans le cas spécifique d'une étude de biologie. Hein. Donc, en fait, une des disciplines sur laquelle on est appelé à travailler quand on s'intéresse à des vertébrés, c'est ce qu'on appelle la dynamique des populations. En fait, c'est qu'est-ce qui régit le fait qu'une population est stable, ou augmente, ou diminue. En décortiquer les mécanismes. Alors dans une population, on peut la schématiser. On part toujours sur des modèles qui sont basés sur les femelles, parce que, n'en déplaise aux messieurs dans la salle, c'est dans la démographie des vertébrés, les femelles sont bien plus importantes que les mâles. C'est elles qui conduisent la démographie, bien entendu, puisque c'est elles qui se reproduisent. Alors, on peut schématiser en disant qu'on a des poules, enfin des femelles qu'on appelle poules chez les galliformes, hein, des femelles de 1 an et des femelles de plus d'un an, parce qu'on n'est souvent pas capable de distinguer. Au sein des femelles de plus d'un an, celles qui ont 2 ans, 3 ans, etc., sont sans examen invasif. Donc on ne peut pas. Alors comment ça marche, la dynamique des populations? Les poules de 1 an se reproduisent avec un taux de fécondité donné, et les jeunes ont un taux de survie donné qui vont redonner l'année suivante de jeunes poules. Mais ces jeunes poules vont devenir des femelles l'année suivante de plus d'un an, femelles de plus d'un an qui vont survivre avec un taux de survie donné pour devenir des femelles de troisième année, de quatrième année, etc. Mais elles se reproduisent également avec un taux de fécondité différent des jeunes poules en général. Et ces jeunes ont un taux de survie le même que celui des jeunes poules, donc qui vont redonner des femelles de 1 an. Donc c'est un peu ça le cycle de vie. Mais une population dans les montagnes, ce n'est pas des populations fermées. Hein, il y a des échanges avec les voisins par émigration. ou immigration. Et c'est tout ça qu'il faut quantifier si vous voulez voir si une population, et surtout comprendre quand une population augmente, diminue ou est stable, quelle est la variable qui intervient le plus. Alors, j'ai pris un exemple avec le Lagopène, on aurait pu le faire avec les autres, mais on a pris celui-là parce qu'il est assez emblématique, et puis aussi parce qu'on est dans le PNR de l'Ariège, et les premiers Lagopèdes qui ont été capturés pour des études un peu de ce genre-là, l'ont été ici dans le parc, la zone parc, c'était pas le parc à l'époque, au Mont-Valier, par quelqu'un qui vit sur le parc éleveur maintenant, Jérôme Morchette, donc il faut lui rendre hommage. Et les méthodes qu'il a mis au point sont encore utilisées, donc il faut d'abord, pour faire de la dynamique de population, il faut marquer individuellement des individus, c'est impossible autrement, donc ça veut dire les capturer. Or, il s'agit d'oiseaux sauvages qui vivent en haute montagne, c'est pas toujours simple, donc il a fallu être inventif dans les méthodes. Là, c'est pas, j'en détaille deux ou trois, c'est on attire une femelle qui est mère de famille, et donc elle est très sensible aux cris de détresse de poussins, donc avec des cris de détresse de poussins, vous pouvez la faire venir dans un filet. Aussi, on peut rabattre à la fin de l'été la production de jeunes de l'année vers des filets qu'on a préalablement disposés. On les rabat doucement pour qu'ils se piègent eux-mêmes, mais sans voler et de pas se blesser. On peut avoir aussi des méthodes un peu plus sportives en utilisant des sortes de... On appelle ça une canonnette, c'est un fusil qui projette un filet qui va capturer l'oiseau ou au sol, si on l'a détecté au sol ou en vol. C'est assez sportif. Donc voilà, donc ça fait déployer beaucoup d'efforts. Et sur deux territoires d'études, un pyrénéen, donc qui est dans le Canigou-Puigmal, donc pas très très loin d'ici, mais pas ici malheureusement, et un autre dans les Alpes de Haute-Savoie, du côté de la station de ski de Flaines, le bassin du Giffre. Voilà un peu l'échantillon d'animaux qu'on a dû utiliser pour faire l'étude que je vous présente là, qui nous permet, donc l'histoire de vie de ces individus capturés, ce qu'on appelle l'histoire de vie, combien de temps ils ont vécu, de quoi ils sont, est-ce qu'ils sont morts ou est-ce que c'est l'émetteur qui est tombé en panne au bout d'un certain temps, ça nous permet de calculer ce qu'on appelle le taux de survie. Le taux de survie d'un individu, si on dit qu'il est de 100%, ça veut dire que le taux de survie annuel d'un animal de 100%, ça veut dire que 100% des oiseaux sont encore vivants un an après, 80%, etc. Et bien, ce qu'on remarque, si on compare les deux populations étudiées, c'est que dans les Pyrénées, dans les Alpes, les deux modèles de survie sont les mêmes, en gros avec des survies automnales plutôt bonnes, des survies hivernales très très bonnes, donc ça ne crève pas l'hiver, et des survies estivales, printemps et été, qui sont plutôt faibles, en tout cas moyennes, qui indiquent en fait c'est le coût à la reproduction. Parce que se reproduire, pour les mâles, ça veut dire s'exhiber pour essayer d'attirer des femelles, mais on s'exhibe aussi pour les prédateurs. Et puis les femelles, eh bien, la dépense de temps et d'énergie, etc., pour produire une ponte, couver, élever des jeunes, ça a un coût aussi. Ce coût est payé en vie, tout simplement, ce qui explique ce différentiel. On voit aussi que les mâles suivent un petit peu mieux que les femelles, et même que les juvéniles, ça c'est un peu normal par rapport à ce qu'on sait. Alors si on annualise ces survies, on se rend compte de survies légèrement supérieures dans les Pyrénées que dans les Alpes, même si les différences ne sont pas significatives, mais en tout cas on a été surpris par ce résultat, des survies relativement élevées, de l'ordre de 70%, entre 60 et 70%, ce qui pour un oiseau de cette taille-là, est une espèce proie, est plutôt surprenant. On s'attendait plutôt à des 40, 50%. Donc c'est plutôt bon signe de ce point de vue-là, sur cette variable-là, pour l'espèce. Elle est capable elle survit bien dans nos montagnes. Vous verrez pourquoi je dis ça bien, parce que, en fait, nos montagnes qui abritent ces oiseaux sont vraiment l'extrême sud de l'aire de répartition de ces bêtes-là, qui est plutôt circumpolaire. Donc vous voyez en noir, c'est tous les espaces du monde habités par cette bête-là. Et bien on voit que les Pyrénées, à part les Alpes japonaises, sont les montagnes les plus au sud. Donc il était légitime de se poser la question, est-ce qu'elles sont plus vulnérables que les populations boréales? Et donc il faut regarder ces variables, survie, natalité, et les comparer. Ce qu'on a fait, en utilisant la littérature disponible et par des contacts avec des collègues d'autres pays, eh bien, le constat est que, pour ce qui est de la survie, plus on est vers le sud, meilleure est la survie. C'est-à-dire que, en gros, le Yukon, c'est donc le sud de la partie de l'Alaska que vous voyez là-haut, les îles Aléoutiennes, où la survie n'est quand même pas si mal que ça, donc c'est ce qui prolonge l'Alaska là, dans la mer de Bering. Et puis après, on voit que les populations vraiment très très nordiques ont des survies très faibles. Donc il y a une seule espèce a deux stratégies démographiques du point de vue de la survie en fonction des latitudes. Alors après, on a regardé la fécondité. Et la fécondité, on a trouvé une fécondité, la fécondité de, donc des oiseaux marqués. Hein. La fécondité double, un peu plus du double, des oiseaux pyrénéens par rapport aux oiseaux alpins, ce qui mettait un peu la puce à l'oreille sur d'autres phénomènes qu'on observait par ailleurs. Par contre, quand on a comparé ces fécondités par rapport aux fécondités des populations nordiques, elles sont très inférieures, puisque les populations nordiques, on a toujours au moins 2 jeunes par femelle. On a des oiseaux, nous, dans nos montagnes du Sud, qui survivent très bien, mais qui se reproduisent peu. Ça veut dire qu'elles vont être très sensibles, pas tellement à des modifications de la natalité, parce que la natalité ne conduit pas beaucoup la démographie, c'est vraiment la survie là qui va être très importante à surveiller pour la conservation des populations. Et puis quand on introduit donc les survies et les mortalités dans le fameux modèle qu'on fait ensuite tourner, on peut calculer ce qu'on appelle le taux de croissance de la population, c'est-à-dire le coefficient par lequel il faut multiplier l'effectif d'une année pour obtenir l'effectif de l'année suivante. Et on voit que dans les Pyrénées, il est un petit peu supérieur à 1, ça veut dire 1, ça serait la stabilité parfaite. Il est un peu supérieur à 1, ça indiquerait que la population étudiée, en tout cas, hein, celle-là au moins, pourrait subir une légère augmentation. Par contre, on obtient 0,08 seulement dans les Alpes, ce qui montre un déclin marqué. Ça veut dire qu'on perd 20% des effectifs chaque année. Et notre modèle n'est pas si mauvais que ça, parce que c'est à peu près ce qu'on observe par des comptages classiques menés par ailleurs sur ces mêmes populations. Donc ces modèles semblent valides. Il faut effectivement garder vraiment l'attention sur cette variable survie. Alors je conclurai juste en disant qu'on observe qu'on a de temps en temps des hivers avec peu de neige, ou en tout cas une arrivée de la neige en début d'hiver, parfois un petit peu en pointillé. Or c'est un oiseau, j'aurais dû le préciser au départ, mais qui change 4 fois de couleur au cours de l'année. La nature a prévu pour lui qu'en fonction de la photopériode, il est blanc en hiver quand il y a de la neige, il est couleur du substrat en été et il est couleur intermédiaire dans les 2 saisons intermédiaires. Il se trouve que de plus en plus souvent, on a des oiseaux tout blancs comme ça, donc dans un milieu faiblement ou pas enneigé. Quid de la survie dans ce cas-là, en relation avec leur prédateur qui cherche sa vue, comme l'aigle royal, qui est le principal prédateur en montagne du lac Gopède. Donc on peut se poser des questions, on n'a pas les réponses, je ne vous les apporterai pas aujourd'hui, la prochaine fois peut-être. Mais aussi, les mortalités additives aux mortalités naturelles constituées par les collisions de clôtures ou de câbles sont particulièrement problématiques parce que là, elles vont affecter les survies. Et donc, le taux de croissance dans le massif du Canigou, il n'y a pas de station de ski. Peut-être que si on le recalculait à Barège, à Cotteray, peut-être qu'on aurait un taux de survie comme on a dans les Alpes de Savoie et à ce moment-là, un déclin de population. Donc, ça veut dire que ces actions sont pertinentes en tout cas. Et puis, on sait aussi que l'homme, l'activité humaine en montagne génère toujours une augmentation de l'augmentation de certains prédateurs généralistes, en particulier le renard, la corneille noire, parfois la pie. C'est une conséquence notamment de l'activité touristique de masse en montagne, c'est l'augmentation des prédateurs généralistes qui pourraient aussi jouer un rôle négatif sur la survie des oiseaux.